Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une section de texte à tirer du média suivant. La presse. Au programme, Rigardeau comme métaphore du Québec. Pour un débat rationnel sur l'intelligence artificielle. Un chocolat au goût amer. Et la terre est creuse. Bonne écoute.
Rigardeau comme métaphore du Québec. Un texte de Marie-France Bazot, paru le 25 avril 2023 dans La Presse. Beaucoup d'agitation du côté des trolls en mi-avril 2023. Il faut dire que l'actualité a été faste pour eux. Abandon programmé du troisième lien à Québec, ou plutôt sacrilège pour les dévots du pick-up et de l'auto-solo, un troisième lien entièrement consacré au transport en commun jusqu'à sa probable annulation tout court. Révélation du nom de la victime d'Harold Lebel, la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, et célébration de son immense courage. Mais pas que. Certains animateurs de radio lui ont reproché sa quête de justice. Il y eut aussi Musk, qui a décrocheté les personnalités sur Twitter, taxé la CBC d'être un média d'État avant de se dédire. Les armées elonesques vivent depuis un party 24/7 sur Twitter. En gros, ce fut une semaine riche pour les énervés du bocal. Les extrémistes de tout poil n'ont pas manqué de carburant. Et, au milieu de tout ce raffut, une page s'est tournée. Rigardeau Larrivé a présenté sa dernière émission de télé quotidienne après 21 ans à Radio-Canada, mais surtout dans les maisons des Québécois. Je vais ici parler de Rigardeau, car pour moi, cet homme et cette marque est un baromètre de l'état intime du Québec. Dans le paysage médiatique, depuis 3 bonnes décennies, il a construit un empire, récemment absorbé par le groupe Sobeys. Sa figure amicale régit littéralement ce qu'un grand nombre de Québécois mangent tous les jours. Cherchez une recette de bolognaise ou de ragoût, invariablement, l'algorithme vous renverra à Rigardeau. Son positionnement est incontournable. Il est une marque, mais avant tout un prénom. Un ami de tous, familier par sa présence à la télé, où il a grandi en cuisine avec nous progressivement, ne reniant pas ses valeurs, la famille et l'éducation. Il milite depuis toujours pour une meilleure littératie culinaire dès l'enfance, la démocratisation de la cuisine et son engagement. Il a contribué à mettre de l'avant une cuisine soucieuse des enjeux actuels, accessible, simple et peu intimidante. Ordinaire, mais avec une twist. Il est riche, mais modeste. C'est le bon gars fiable. Jamais confrontant, mais ferme et déterminé. Sa cuisine est une métaphore de l'état d'esprit du Québec, un baromètre de nos états d'âme collectifs. Ses deux ouvrages consacrés à la mijoteuse dans les années 2010 ont été d'invraisemblables succès. Ils ont propulsé la vente de ces petits électroménagers indissociables de cette époque et la cuisine de manger mou. La mijoteuse a pour effet de rendre tous les aliments mous et parfaitement digestes. Elle éteint les couleurs et mêle les saveurs. Elle est sans effort. On y jette tout pêle-mêle et 6 heures plus tard, un tagine de poulet aux dattes ou une lasagne en émerge. Nourriture tendre et molle, refuge culinaire, doudou des papilles. Le Québec de ces années-là est post-post-référendaire, léthargique et libéral. Quand le printemps érable survient en 2012, une partie de la population vit le réveil de la jeunesse comme un choc. La mijoteuse est comme un refuge symbolique, un réconfort gustatif. Dans les années 2020, et particulièrement avec la pandémie, les fractures sociales se creusent, les esprits s'échauffent. Le Québec est à broil. Ricardo le pressent. Il lance à la plaque, où les aliments passent à la cuisson vive et saisissante. Il capte l'air torride du temps et le transpose en cuisine. C'est rapide, à vif, totalement de son époque. Et récemment, alors que le Québec vivait des transes collectives face à l'immigration, il publie « Manger ensemble », un livre rassembleur sur l'accueil et la joie du partage. À travers ses recettes, Ricardo nous invite à nous ouvrir à la table des autres, à nous questionner, nous métisser. Sa recette la plus populaire ressemble à ce que nous devenons souple et ouvert. Un tofu général Tao. L'air de ne pas y toucher, Ricardo parle de sa société. Il a changé nos habitudes et même nos valeurs en cuisine. Il est le principal pourvoyeur de nos succès culinaires au quotidien. Même si toute une génération de cuisiniers, de Pinard à Marilou, en passant par Distasio, nous ont fait évoluer, peu le font sur une base si domestique, si triviale. Il a compris l'appétit du Québec. C'est pourquoi la politique n'est jamais loin de la politique alimentaire. Impliqué dans le volet alimentaire du Lab-École, il a tâté la politique par la bande. Son association avec Soubise, la passation de son émission aux mains de la relève, Isabelle Deschamps-Plante, son implication auprès des jeunes, laisse entendre qu'il n'est pas prêt de s'en aller, mais sa popularité et son intuition de ce qu'est le Québec font de lui quelqu'un de certainement très courtisé. Il maîtrise déjà les ingrédients de la soupe québécoise. Reste à savoir quel est le parti politique qui goûte le plus le mijoté. C'était « Ricardo comme métaphore du Québec », un texte de Marie-France Bazot, paru le 25 avril 2023 dans La Presse. Pour un débat rationnel sur l'intelligence artificielle, un texte de François Gagnon et Christian Casanova, paru le 22 avril 2023 dans La Presse. François Gagnon est directeur général et chef de la direction à l'École de technologie supérieure, ETS, et Christian Casanova est directeur exécutif de la recherche et des partenariats à l'École de technologie supérieure, ETS. La lettre ouverte, signé par plusieurs personnalités du monde de l'intelligence artificielle, IA, dont Yoshua Benzio et Catherine Régis, dénonçant l'urgence d'agir en matière d'adoption du projet de loi sur l'intelligence artificielle et les données LIAD dans le cadre du projet de loi C-27, est tout à fait juste et va dans le sens du bien commun. Bien qu'il soit essentiel de mettre en place des réglementations et des lois claires pour encadrer l'IA, l'attention portée sur ce débat ne doit pas occulter les bénéfices et la prépondérance de l'IA dans le développement des technologies d'avenir. Il est tout aussi crucial de réfléchir à mieux communiquer quels sont ses bénéfices actuels et potentiels pour la société afin qu'elle soit mieux comprise par le public. Outiller la population à mieux comprendre l'IA. Au service à la fois d'aspects de la science pure, de la science appliquée et de la technologie, l'IA suscite son lot d'inquiétudes par sa complexité et son envergure, ce qui en complique la communication et la vulgarisation. Il va sans dire que le rythme rapide du développement et de l'adoption de l'IA et les transformations qu'elle suscite dans nos habitudes de vie peuvent faire l'objet de préoccupations légitimes quant à notre capacité à comprendre et gérer ses impacts sur la société, le savoir, l'économie et l'humain. dans ce contexte. Les débats actuels et les appels au moratoire tendent à occulter les aspects positifs en se focalisant sur les dangers potentiels de l'IA sans dresser un portrait global de la situation et en soulignant essentiellement la menace de certaines approches utilisant l'IA. C'est pourquoi il devient primordial d'outiller la population afin qu'elle acquière les connaissances nécessaires pour comprendre minimalement les systèmes d'IA, mais aussi pour être en mesure de se questionner et de remettre en cause même les données et les algorithmes en fonction des motifs sous-jacents à leur collecte pour nous assurer collectivement une utilisation et un développement responsable de cette technologie. Dans tous les cas, une plus grande littératie technologique et scientifique pour les citoyens est devenue indispensable. C'est notre responsabilité et celle de nos décideurs. La recherche en IA au bénéfice de la société. L'intelligence artificielle peut s'appliquer à de nombreuses situations et recherches. Il est donc essentiel d'expliquer ses principes et concepts en abordant tant les aspects sensibles que les avantages qu'elle peut procurer au bien-être des sociétés. Les questions éthiques et politiques soulevées par ces avancées technologiques sont naturelles, mais elles ne doivent pas entraver la recherche et le développement de solutions pour relever des défis mondiaux tels que le changement climatique, les pandémies et l'économie. L'éthique de la technologie doit pouvoir se développer au même rythme que les dispositifs. Le manque de littératie sur le sujet peut nuire à des branches porteuses du développement de l'IA, que ce soit en matière d'action climatique, de sécurité, d'accessibilité, d'infrastructures intelligentes et de santé, l'IA a déjà fait la preuve de son efficacité. On n'a qu'à penser à l'avancée fulgurante de la recherche qui utilise l'IA pour diagnostiquer certaines pathologies telles que la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson ou encore certains cancers, pour comprendre tous ses bénéfices. La communauté de chercheurs et chercheuses a donc un rôle important à jouer et doit continuer de participer activement à l'éducation et à la vulgarisation de cette technologie incontournable aux avantages considérables. L'IA fait maintenant partie du cursus de nombreux établissements d'enseignement et de recherche, comme c'est le cas à l'École de technologie supérieure et est devenu, dans de nombreux domaines de la société, un outil de prédilection pour l'optimisation des processus, comme c'est le cas par exemple dans le génie ou le domaine de la construction. L'intégration de l'IA, un jeu d'équilibriste. Il est donc crucial de prendre en compte les différentes perspectives et les arguments et de peser le pour et le contre du développement de la recherche en IA afin d'adopter une approche équilibrée et responsable dans l'essor et l'application de cette technologie. C'est en mettant en place des protocoles de sécurité et d'éthique pour les recherches en IA, en garantissant la transparence et en explorant de nouvelles approches mettant l'accent sur des modèles plus décentralisés, démocratiques et équitables que nous garantirons un équilibre entre les progrès scientifiques, les innovations utiles et la préservation de la sécurité et de l'éthique pour mitiger les risques potentiels. Selon nous, nous devons porter une attention à ce que l'IA dans son ensemble ne soit pas perçu négativement. Tout est une question d'équilibre. L'utilisation malveillante de l'IA et notre capacité comme société à réagir, à réglementer et à circonscrire les risques devrait plutôt être l'objet premier de nos inquiétudes. C'était, pour un débat rationnel sur l'intelligence artificielle, un texte de François Gagnon et Christian Casanova, paru le 22 avril 2023 dans La Presse. Un chocolat au goût amer. Un texte de Ève Dumas, paru le 24 avril 2023 dans La Presse. Maintenant que nous nous sommes bien gavés de chocolat de Pâques, si nous nous penchions un peu sur le goût amer de la culture du cacao. C'est le sous-titre du livre « Chocolaté » paru récemment chez Éco-Société. On sait depuis un certain temps que tout n'est pas rose dans l'industrie du chocolat, surtout en ce qui a trait aux conditions de vie et de travail des producteurs africains. De nombreux reportages et documentaires ont été diffusés sur le sujet. Il n'y a qu'à visionner l'épisode sur le cacao de la série Netflix « Pourri », sorti en 2019. Mais voici que Sammy Manga arrive avec un récit beaucoup plus poétique, personnel et, de ce fait, percutant. Son Chocolaté raconte le parcours d'Abena, qui, à 10 ans, travaille dans les plantations du Cameroun avec son grand-père. On le voit prendre peu à peu la mesure du désastre de cette culture qui décime autant les forêts que les hommes, femmes et enfants. L'homme blanc, venu exploiter le travailleur africain, et les politiciens locaux corrompus en prennent certainement pour leur rhume dans ce livre. À mesure qu'Abena grandit, apprend, part étudier et travailler loin de son village, le récit à la langue fleurie change un peu de ton pour devenir plus informatif et livrer des faits et des chiffres sur l'industrie du chocolat. De grands noms sont égratignés, de fausses promesses d'équité sont éventées et l'exploitation, pour ne pas dire esclavagisme moderne, apparaît au grand jour. De fèves de cacao en Haïti. Le cacao vient des Amériques, des Mayas, pas d'Afrique, rappelle Sammy Manga. La plante a suivi les déplacements des colons. C'est la France qui a amené le cacao en Afrique, qui l'a imposé. Sa monoculture a fait disparaître bien des aliments qui servaient à nourrir les familles. Le cacao n'est pas un aliment qui fait partie de notre alimentation. Il n'est pas consommé sur place, poursuit celui qui habite présentement en Suisse. Néanmoins, l'Afrique produit aujourd'hui 80% du cacao dans le monde. Les pays ne récoltent que 6% des 100 milliards, chiffres de 2021 provenant du Conseil international du cacao, que génère l'industrie, et ce qui revient aux planteurs tourne autour de 2%. C'est la Côte d'Ivoire qui est la plus investie, avec 40% de la production mondiale. Là-bas, les 2/3 des emplois y seraient liés, d'après l'émission Pourri. Lorsqu'on y pense bien, on se rend compte qu'en Occident, le cacao est partout et en grande quantité. Des produits haut de gamme faits par les chocolatiers aux tablettes de friandises très peu cacaotées du dépanneur, en passant par les pépites des biscuits de supermarché. À l'époque des Mayas, le chocolat était céleste. C'était un ingrédient divin, nous raconte l'auteur en visioconférence. C'est devenu d'une vulgarité extrême qui entraîne la surconsommation. C'est urgent qu'on revienne à la modération, à la sobriété. Il faut consommer le chocolat de manière raisonnable. Personne ne va mourir de manger moins de chocolat. L'être humain a été capable d'inventer plein de belles choses. On peut inventer un nouveau rapport avec la vie. On voit bien qu'on est déphasé avec la planète, implore celui qui se qualifie d'éco-poète. C'est d'abord à Genève que le livre est sorti. Sammy Manga a aussi participé au Salon du livre de Bruxelles. Des gens de l'industrie ont acheté son autofiction. À partir du titre, les lecteurs pensent d'abord que c'est un livre de recettes. Je m'amuse à leur dire ne pas lire le sous-titre qui pourrait les décourager. Au cours de ma recherche, j'ai découvert l'ignorance du consommateur, mais aussi une certaine servitude. Les gens sont mal informés. Ils ne sont pas forcément de mauvaise foi. Ils ne savent tout simplement pas, dit Sammy Manga, auteur de Chocolaté. Le début d'une prise de conscience. C'était un chocolat au goût amer, un texte de Ève Dumas, paru le 24 avril 2023 dans La Presse. La terre est creuse. Un texte de Dirk Kuiman, paru le 22 avril 2023 dans La Presse. La terre n'est pas plate. Elle est creuse, comme une assiette à soupe. Pas partout, j'en conviens. Vous penserez au grand lac salé en Utah ou encore à la mer morte. Moi, je pense au polder des Pays-Bas, ces terres basses entourées de digues qui les protègent contre les eaux. L'eau de pluie s'y ramasse et les transforme en lacs ou en marécages. Il faut donc l'évacuer. Au Québec, c'est le temps de la fonte des neiges. Même si cette année, il ne semble pas y avoir d'embâcle de glace, plusieurs rivières sont pleines, comme certains lacs. Les milieux humides et les plaines inondables ne servent plus à accueillir les surplus d'eau. Maintenant, de nouveaux quartiers résidentiels occupent la place. Les riverains se préparent à l'inondation de leurs terrains et sous-sols. Nos pompiers sortent leurs pompes. Les villes montent le niveau d'alerte. Vous comprenez que, lorsque le gouvernement du Québec annonce des travaux afin de protéger nos berges à Sainte-Marthe, sur le lac ou dans le Bas-Saint-Laurent, mon cœur de Hollandais bat plus vite. Aux Pays-Bas, on se soucie de la protection des terres et de leurs habitants depuis le Moyen Âge. Le dicton qui dit que Dieu créa la terre, mais que les Hollandais ont créé les Pays-Bas, contient un élément de vérité. Souvent, on me demande « Comment ça se fait que je sois si grand ?» Je réponds toujours qu'en 1916, la digue aurait cédé, celle qui protégeait le village d'Anjik, en Frise occidentale, où sont nés mes parents. Une sévère tempête d'automne aurait causé une brèche, et comme le niveau de l'eau à marée haute a atteint 1,80 m, tous ceux dont le nez se situait plus bas se seraient noyés. La digue a tenu. En réalité, la digue n'a jamais cédé. C'était mon arrière-grand-père, que je n'ai jamais connu, qui, dans sa qualité de responsable de la gestion des eaux, a organisé les travaux de dernier recours afin d'empêcher une inondation. Mais surtout, les terres que protège cette digue se situent à 5 mètres sous le niveau atteint en 1916. La tempête de 1916 n'était pas la seule. En 1917, un autre raz-de-marée a frappé le sud-ouest du pays. Et en 1953, la même région a subi une tempête historique. Les inondations y ont fait 1900 victimes. Ceux parmi vous qui ont visité les Pays-Bas ont vu les multiples barrages érigés afin d'éviter une répétition de ces événements. La digue a été achevée en l'an 1250 et entretenue depuis. Or, la période de réchauffement de l'hémisphère nord, du 8e au 13e siècle, au moins en Europe du Nord, a causé une série de tempêtes dévastatrices qui ont changé le visage du pays. Des régions sont devenues des îles, des villages ont disparu, mais notre digue a tenu. Par contre, à la longue, les digues et le pompage ont eu un effet contraire aux objectifs. Si dans les polders, ces anciens lacs et tourbières, on maintient l'eau à un niveau bas afin de sécher les champs, la tourbe sèche se tasse et il faudra pomper encore plus. De la même manière, on y a endigué les cours d'eau afin de protéger les terres contre les inondations ponctuelles des fleuves et rivières en temps de pluie ou de fonte des neiges. Là aussi, la protection peut créer un risque. Quand les fleuves contiennent trop d'eau, dans leur nouveau lit trop étroit, le niveau de l'eau risque de monter de façon exponentielle. Il faudra encore monter la hauteur de toutes les digues. Malheureusement, l'eau étant fluide, elle se déplace et trouvera l'endroit le plus faible dans le système de défense. Actuellement, les changements climatiques causés par l'homme, mondiaux cette fois-ci, reproduisent et amplifient ces enjeux, y compris le niveau de la mer qui monte. Les dunes sont à risque et la mer empêchera l'eau des fleuves de s'écouler. Après un siècle de construction de barrages et de fortifications des défenses existantes, les Néerlandais se sont rendus compte qu'une approche paradoxale s'impose. Il faudra laisser plus de place à l'eau. Certains des polders seront inondés lorsque le débit d'eau sera trop grand. Des terres situées le long des fleuves serviront de réservoirs. Leurs habitants seront déplacés. Des rivières canalisées reprendront leur forme sinueuse afin de ralentir l'écoulement de l'eau. Au Québec, l'eau prend autant de place qu'aux Pays-Bas. Il semble que nous recevons autant de neige que dans le passé, sinon plus. Les tempêtes, les pluies diluviennes et les ondes de tempête deviendront plus fréquentes, les raz-de-marée plus forts, des renforcements des berges à un endroit causeront plus de pression plus loin. Donc, les mesures de notre gouvernement ne sont qu'un pansement. Faute de prendre des mesures qui réduisent réellement les changements climatiques, le Québec devra adopter une approche proactive de la gestion des cours d'eau et des lacs, plutôt que d'attendre les inondations et d'enrocher les berges. À court terme, toute construction résidentielle dans les zones riveraines est à proscrire. C'était « La terre est creuse », un texte de Dirk Quiman, paru le 22 avril 2023 dans La Presse.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage à la lecture, Francine Thériault à la recherche, Nicolas Wartman à la présentation et au montage.